les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Vatican, dans son traditionnel message sur la place Saint-Pierre de Rome à l'occasion de Noël, le pape François a exhorté la communauté internationale et les gouvernants ce mercredi à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence pacifique des peuples, notamment au Moyen-Orient et tout particulièrement en Syrie. Évoquant aussi l'Afrique et ses problèmes de violence, calamité naturelle ou urgence sanitaire, le souverain pontife a offert son réconfort à tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse, notamment les missionnaires et les fidèles kidnappés. Le pape François a dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Et il a lancé un appel en faveur de la paix pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, meurtries par des conflits persistants. Corne de l'Afrique, le président érythréen Isaias Afwerki est arrivé ce mercredi à Addis Abeba pour y rencontrer le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Une première depuis que M. Abiy s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour avoir initié un rapprochement entre leurs deux pays. Pendant son séjour en Éthiopie, le président érythréen devrait rencontrer des responsables éthiopiens pour discuter de problèmes bilatéraux. La guerre entre l'Éthiopie et son ancienne province, l'Érythrée, avait fait quelque 80 000 morts entre 1998 et l'an 2000. Un conflit dû notamment à des querelles territoriales entre les deux voisins. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Deuil national de 48 heures au Burkina Faso, 35 civils dont 31 femmes ainsi que 7 militaires y ont été tués mardi lors d'une attaque djihadiste à Orbinda dans le nord. Il s'agit d'une des incursions les plus meurtrières qu'a connu le Burkina en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes comme ses voisins le Mali et le Niger. Jean-Roger Bion fait le point.
7 soldats, 35 civils et au moins 80 terroristes ont été tués au cours d'une attaque contre un détachement militaire à Orbinda, dans le nord de Burkina Faso, selon l'état-major des armées, dans un communiqué. Mardi matin, un nombre important de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire et les populations civiles d'Orbinda dans la province du Soum, selon le communiqué. Au cours de cette attaque d'une rare intensité qui a duré plusieurs heures, la détermination et l'audace des éléments du détachement composé des forces terrestres et de la gendarmerie ont permis de neutraliser au moins 80 terroristes, selon l'état-major. Côté ami, on déplore malheureusement 7 morts, dont 4 militaires et 3 gendarmes, et une vingtaine de blessés. Plusieurs victimes civiles ont également été dénombrées, indique l'armée. Une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont été également récupérées. Depuis début novembre, les forces de défense et de sécurité burkinabè ont annoncé avoir tué une centaine de djihadistes au cours de plusieurs opérations, des bilans impossibles à confirmer de sources indépendantes.
Politique en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle de 2020 dans le pays, a dénoncé mardi la volonté du pouvoir de l'empêcher de se présenter à ce scrutin. Des critiques formulées après son retour avorté dans son pays la veille et l'arrestation de ses partisans à Abidjan. L'ex-président de l'Assemblée nationale, toujours député, a fustigé l'interpellation de ses supporters et attaqué son ancien allié devenu adversaire, le président ivoirien Alassane Ouattara. En froid avec le pouvoir depuis près d'un an, Guillaume Soro fait depuis ce lundi l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice ivoirienne pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Au Nigeria, le journaliste et opposant Omoyele Sowore a été libéré hier soir suite à l'ordre donné par le gouvernement à l'Agence nationale de renseignement de se conformer à plusieurs décisions de justice allant dans ce sens. Le point avec John Lyndon.
Joyeux Noël, je ne peux pas parler aux médias maintenant, je le ferai plus tard. Ce sont là les premières déclarations de l'opposant à sa sortie des locaux de la DSS à Abuja, manifestement heureux de pouvoir retrouver sa famille pour les fêtes. Le Nigeria était sous le feu des critiques ces dernières semaines après la nouvelle arrestation rocambolesque le 6 décembre d'Omoyele Sowore au lendemain de sa libération sous caution. Après plusieurs mois en détention dans les locaux de la DSS, Sowore, patron du journal en ligne Sahara Reporters, venait juste d'être libéré à la suite d'une décision de justice lançant un ultimatum pour qu'il comparaisse libre à son procès lors de sa réarrestation le 6 décembre. En septembre, un tribunal avait déjà ordonné sa libération, mais la DSS n'avait pas suivi la décision de justice. Candidat malheureux à la présidentielle de février et pourfendeur virulent du pouvoir, Sowore, 48 ans, avait été arrêté le 1er août pour avoir appelé à l'organisation d'une manifestation de masse baptisée « Révolution maintenant ». Il reste accusé de trahison, de blanchiment d'argent et de cyberharcèlement contre le chef de l'État.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, un journaliste d'investigation a été condamné mardi à 18 mois de prison ferme et à 200 000 francs CFA d'amende pour des posts sur les réseaux sociaux. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
Ignace Sossou a été condamné pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique, selon son avocate, Maître Prissa Ogoubi. Il était calme, mais n'avait pas l'air vraiment serein, a confié un autre journaliste béninois présent au tribunal. M. Sossou avait été interpellé le 19 décembre à son domicile avant d'être placé en garde à vue. La veille de son arrestation, le journaliste avait posté sur ses pages Facebook et Twitter des propos attribués au procureur de la République. Selon ces publications, Mario Metounou intervenait lors d'une conférence organisée à Cotonou par l'Agence française de développement pour débattre des fake news. Les propos relayés semblaient assez critiques de l'attitude du pouvoir vis-à-vis de la liberté d'expression. La coupure d'Internet le jour du scrutin du 28 avril est un aveu de faiblesse des gouvernants, aurait notamment déclaré le procureur, qui n'a pas publié de démenti par la suite. Le journaliste a déjà fait l'objet d'une condamnation récente à une peine de prison avec sursis pour publication de fausses nouvelles après des révélations sur des comptes offshore et des sociétés écrans visant des hommes d'affaires béninois et français.
Au Sénégal, pays à grande majorité musulmane, en ferveur de Noël en cette période de fin d'année. Mais si beaucoup de membres de la communauté musulmane fêtent Noël en parfaite harmonie avec les chrétiens, d'autres sont moins enclins à le faire. Et c'est souvent les enfants qui en pâtissent, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Je suis triste parce que je ne pourrai plus avoir des cadeaux de Noël. Peut-être qu'on n'a pas des parents qui ont les moyens. Peut-être que nos parents ne veulent pas nous acheter des cadeaux.
À l'instar de Dama Cissé, beaucoup d'enfants ne reçoivent pas de cadeaux de Noël et ils ne cachent pas leur tristesse. Une situation déplorable d'après Amina Ndiaye. Cette jeune dame estime qu'il est essentiel de faire plaisir aux enfants durant ce genre de fête.
Ça fait un peu mal parce que vous voyez, l'enfant se frustre rapidement. Il peut sortir, ses amis lui disent que voilà, moi j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, donc ça peut facilement les frustrer et voilà, c'est un peu un déséquilibre. Bon, je juge pas peut-être les parents qui le font pas, parce que peut-être c'est par principe ou bien par la lecture différente qu'ils ont des choses. Le petit truc qu'ils achètent, peut-être un petit ballon, ça vaut un sourire et ce sourire-là n'a pas de prix.
Ibrahim Diop est d'accord qu'il faut acheter des cadeaux pour faire plaisir aux enfants. Mais pour ce père de famille, cela ne doit pas nécessairement être rattaché à la fête de Noël.
C'est pas une fête musulmane, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais faire des cadeaux à ses enfants, je pense que le bon musulman doit le faire en dehors de Noël, régulièrement, pour au moins encourager ses enfants dans l'école, dans les daras, ainsi de suite. Je ne trouve aucun inconvénient, mais associer le fait de donner des cadeaux aux enfants musulmans à une fête chrétienne, c'est ce que je déplore et que je ne pense pas que les musulmans associent leur geste à la fête. Non, je ne pense pas.
De son côté, Serigne Fallou Lumbaye juge que fêter Noël est devenu un impératif pour tout le monde à cause des règles de bon voisinage qui régissent les cordiales relations entre musulmans et chrétiens au Sénégal.
Autant ça ne faisait pas partie de nous, mais avec l'évolution, donc on ne peut pas le faire parce qu'on a des enfants, on a des voisins catholiques, donc on est obligé de le faire pour satisfaire nos enfants. Mais ça ne faisait pas partie de notre culture parce qu'on n'est pas né chrétien pour fêter Noël. Mais maintenant, on est obligé parce qu'on est très rapproché de nos frères catholiques.
Exemple de tolérance par le dialogue permanent avec les chrétiens, les musulmans sénégalais sont pourtant partagés à l'heure de fêter Noël. Certains estiment que la célébrer n'est pas forcément obligatoire tard, tout comme donner des cadeaux aux enfants. D'autres pensent qu'il est important de faire plaisir aux enfants en fêtant Noël au nom du vivre ensemble, qui est le socle des relations entre musulmans et chrétiens du Sénégal. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.